contrôle de l'âge en ligne, quelles sont les solutions, les technologies qui sont envisagées? On en parle aujourd'hui avec mes deux invités. Camille Hisselman, bonjour. Vous êtes la cofondatrice d'Opal, qui est une start-up qui a développé une technologie en double anonymat. On expliquera bien évidemment de quoi il s'agit. En tout cas, ça permet de faire un contrôle, vous nous dites, simple, fluide et sécurisé de l'âge. Opal a été sélectionnée pour intégrer la promotion 2024 de l'incubateur Sista et a rejoint le programme Women in FinTech de Villa. Bah, félicitations pour ça déjà. Avec vous en plateau, Stéphane Mavel, vous êtes une experte des sujets d'identification et d'authentification. Vous êtes passée par des grandes banques, mais également des organismes publics, le secteur public. Et vous êtes aujourd'hui la responsable marché et stratégie identité numérique de Aydina. Aydina qui est aujourd'hui une plateforme qui propose plusieurs solutions en fait, hein, autour de l'identité.
Tout à fait.
Et qui est l'un des principaux fournisseurs de vérification d'identité et d'identité numérique actuellement. Alors, ma première question, c'est cette question de la vérification de l'âge sur les services en ligne. Elle est ancienne. On a parlé de multiples solutions technologiques. On a l'impression que on a à peu près fait le tour de tous les problèmes qui se posaient. On a cette loi pour réguler, sécuriser Internet qui a été adoptée à l'Assemblée nationale et qui nous dit que ça y est, il va falloir vraiment appliquer la vérification de l'âge sur les sites pornographiques. On a l'ARCOM, le régulateur des télécoms et du numérique. Du numérique, qui nous dit, nous, on a un référentiel aujourd'hui qu'on vous soumet à consultation qui décrit très précisément les critères de ce que doit être une vérification de l'âge en ligne. On a l'impression que voilà, tout est prêt. Est-ce qu'il y a encore des choses qui coincent, mesdames? Alors, Camille.
Alors, la loi doit encore être promulguée. Donc c'est la prochaine étape, on attend la promulgation, mais c'est une question de jours, semaines, pour qu'elle soit promulguée, donc nous attendons avec fébrilité.
D'accord, et puis on attend aussi la fin de la consultation, lancée par l'ARCOM.
Oui, le 12 mai, on a jusqu'au 12 mai pour effectivement faire nos remarques sur le référentiel, et je crois de mémoire qu'il disait qu'il fallait qu'il soit publié 2 mois après le vote de la loi. Qu'on est sur un peu avant l'été, pour avoir un référentiel finalisé et savoir précisément quelles sont les exigences à respecter.
Pourquoi est-ce que ça prend tant de temps?
Ah là là, c'est...
Alors, il y a des questions.
Vous êtes sur ces sujets aussi, pas depuis hier, sur l'identité numérique depuis de nombreuses années. Pourquoi c'est si long?
Alors, il y a deux sujets. Je te laisserai, Camille, sur la vérification d'âge, parce que c'est vrai que nous, on n'est pas un spécialiste de la vérification d'âge, on est un spécialiste de la vérification d'identité à distance. L'âge fait partie des données d'identité.
Absolument.
Mais je pense vraiment qu'il faut dissocier les sujets d'identité numérique, qui sont effectivement aussi longs en France, mais pour d'autres questions, du sujet du contrôle d'âge et d'accès aux sites à contenu pour adultes en particulier, qui est un sujet encore plus sensible, on va dire, que les sujets d'identité numérique plus classique de notre quotidien.
Donc c'est plus un blocage du côté, je dirais, des questions de société, des questions éthiques, de protection de nos libertés sur Internet.
C'est exactement ça. Donc il y a un double sujet. Il y a des questions effectivement d'éthique et de société. Est-ce qu'on veut être une société qui suivons les usages des gens sur Internet à la trace? Et il y a plusieurs façons de faire de façon à ce que ce ne soit pas problématique. Et donc typiquement, nous, on a choisi de le faire en double anonymat. Donc il n'y a pas de... On ne peut pas tracer votre ce qu'on appelle votre historique de navigation. Mais il y a aussi également des questions économiques, parce que la question de la vérification qui s'impose à ces sites leur rajoute une pression économique supplémentaire, ce qui fait que ça rend difficile l'adoption.
Et peut-être que ça peut freiner aussi les usages, les utilisateurs, faire baisser les fréquentations. J'imagine qu'il
y a ces questions-là qui se posent.
C'est pour ça,
effectivement. Effectivement, il y a cette question qui se pose, et c'est pour ça que c'est important que pour pouvoir massifier cet usage, parce que
de la
vérification. Hein, vous savez, moi, je suis une maman de 4 enfants, ce que je disais tout à l'heure, dont un adolescent. Donc la conversation où vous vous rendez compte en fait que votre enfant a pu consulter du contenu qui n'est pas dessiné pour lui dans la cour de récré sur des téléphones mobiles, vous vous rendez compte que c'est assez rapidement un sujet qui est vraiment beaucoup trop diffus pour qu'il puisse être traité aussi rapidement. Donc voilà comment est-ce que on se pose un peu on se pose sur le sujet, et voilà pourquoi on a décidé, nous, en tout cas, de l'attaquer sous cet angle.
Alors, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, je voulais juste ajouter que vous avez raison quand vous disiez qu'est-ce qu'il y a encore comme frein. Le frein, c'est l'adoption. C'est ce qu'on ne sait pas, ce que personne ne sait finalement, c'est comment est-ce que les utilisateurs, 20 millions, près de 20 millions de personnes chaque mois qui vont sur les sites à contenu pornographique, comment ces utilisateurs vont se comporter face aux solutions qu'on va leur mettre entre les mains.
Ouais.
Et c'est là le véritable enjeu. Et nous, on a un positionnement un peu différent. Hein. Nous, moi, ce que je défends depuis des années, maman aussi, et je pense que la protection de nos enfants, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur à tous, adultes, je pense. Nous, ce qu'on pousse, c'est on va tous être dotés d'une identité numérique à un horizon, même dans la nouvelle loi, c'est dit à horizon 2027, tous les Français pourront avoir accès à une identité numérique. C'est de dire, il faut que cette identité numérique qu'elle permette aussi l'accès à ces usages-là, qui ne sont pas des usages non autorisés quand on est majeur.
Bien sûr.
Ouais. Donc nous, on dit qu'il ne faut pas qu'on développe des solutions spécifiques au contrôle d'âge, parce que sur un téléphone mobile, ça va se voir, quelqu'un qui a une application, je prouve que j'ai 18 ans, et ça va, à mon avis, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, mais moi, je pense que ça risque de créer un frein. Nous, on dit, bah, avec mon identité numérique... Je peux aussi dire oui, je suis majeure ou non, je ne le suis pas.
Alors, voilà. Oui, donc il faut voir comment on partage cette information. Mm-hmm. Alors justement, je voulais qu'on explique. Qu'est-ce que le double anonymat?
Alors, le double anonymat, c'est le principe technologique qui permet de faire en sorte que les sociétés ou les solutions qui effectuent la vérification de l'âge, comme Aïdina ou d'autres, puissent effectuer cette vérification sans être au courant de l'historique de navigation de l'utilisateur, et également permettre aux sites qui a besoin de faire vérifier, donc les sites pornographiques, les sites de jeux en ligne, il n'y a pas que la pornographie, hein, on a un usage étendu de la vérification de l'âge, et ben, ne soient pas au courant de votre identité.
Alors comment c'est possible ça? Parce qu'à partir du moment où je vais demander à faire valider mon identité, il y a bien un premier prestataire qui va savoir qui je suis.
C'est ça.
D'accord. Donc et là, donc, je ne suis pas anonyme.
Non, alors non, vous n'êtes pas anonyme, mais en fait, c'est le prestataire du milieu, c'est le tiers de confiance et c'est le positionnement que nous, on a pris.
Oui.
Donc en fait, vous vous retrouvez au milieu. Donc il y a un individu qui va dire, j'ai besoin de prouver que j'ai plus de 18 ans, plus de 15 ans ou plus de 12 ans en fonction de l'usage. Mm-hmm. Et donc, il va nous demander l'aider à prouver, enfin à faire cette preuve. Nous, on va aller appeler une société de vérification, une plateforme de vérification. On travaille avec plusieurs plateformes qui existent et voilà, et qui font de la vérification d'identité. On va appeler une de ces plateformes. En appelant une de ces plateformes, on va avoir l'information. Et sauf que
à partir de quelles données? Qu'est-ce que vous collectez comme...
Alors nous, on collecte un identifiant de session. C'est-à-dire que quand je clique sur est-ce que j'ai plus de 18 ans, on a votre identification de session, mais je ne sais pas que vous appelez Jean-Michel ou Anne-Marie.
Et ces plateformes qui vont vérifier derrière si cette personne a plus de 18 ans ou pas.
Elles
partent de quelles données?
Elles peuvent partir de plusieurs types de modalités de vérification possibles, soit par l'analyse des traits de votre visage. Donc on peut faire ce qu'on appelle un selfie, et donc avec ce selfie, en analysant les traits de votre visage, je peux dire si vous avez plutôt 15, 18 ou 50.
Okay.
Et donc ça nous permet de renvoyer le go et de dire à Opal, elle a bien plus de 50, et moi je dis au site, c'est bon, vous pouvez le laisser entrer.
D'accord. Et par la suite, donc vous savez pour quel site je demande cette vérification?
Oui, sauf que moi, je ne connais pas votre identité. Moi, je sais juste que vous avez cliqué et que vous êtes l'identifiant de session XXXX.
D'accord.
Voilà.
Ok. Identifiant de session qui n'est jamais le même.
Qui n'est jamais
pour
le même.
Pour la même personne.
Absolument.
Parce que c'est bien dans
bien
le
sûr.
Référentiel de l'ARCOM,
oui.
Il est bien dit
qui n'est jamais le même.
Il faut vraiment que cet identifiant soit...
Parce que l'enjeu, c'est de dissocier la demande de vérification de l'âge.
C'est ça.
Et la validation sur un site spécifique.
Exactement.
Il ne faut pas qu'on puisse faire le rapprochement entre l'identité de la personne et le site qu'elle souhaite consulter.
C'est véritablement...
Donc, il y a aujourd'hui, je parlais de la consultation de l'ARCOM avec la liste des critères qui doivent être respectés par les technologies. Je ne sais pas si vous entrez dans ces 12 ou 14 critères. Je crois que pour le double anonymat, c'est 14.
Oui,
ou
c'est ça.
16 même,
je ne sais plus.
Je l'ai noté quelque part.
Oui, c'est
16. C'est 12 plus 4 pour le double anonymat.
D'accord.
Est-ce qu'avec l'ensemble de ces critères, ça semble déjà beaucoup, est-ce qu'on atteint vraiment l'optimum pour garantir qu'on est dans un cadre qui va protéger absolument l'utilisateur, son anonymat et l'anonymat de ce qu'il fait sur Internet?
Ah oui. Non, je pense qu'on est très bien. On pourra l'avoir lu, on a quelques remarques à faire. Mmh. Mais oui,
lesquelles?
Si c'est respecté. Alors nous, à la lecture du référentiel, j'ai une remarque sur justement le double anonymat, parce que c'est pas très clair dans ce qui est dit. Moi, dans ce que je lis qu'il faudra que les sites implémentent au moins une solution qui respecte le double anonymat, mais il semblerait qu'ils puissent aussi
avoir d'autres solutions qui ne respectent pas le double anonymat. Donc il y a encore des zones en fait dans le référentiel, mais bon, on est un certain nombre de spécialistes à avoir un petit peu encore trois semaines pour répondre. Donc voilà, il va falloir que ça
soit un peu plus précis. Des choses qui vous semblent floues, c'est ça ?
Il y a des zones qui me semblent encore pas forcément si précises que ça. En revanche, les 16 critères, s'ils sont respectés, on est dans ce qu'il y a de plus sécurisé possible. Oui, bien sûr.
Et tout l'enjeu, c'est de le rendre le plus fluide possible et de faire en sorte que ce soit invisible pour l'utilisateur.
Ah oui.
Chez nous, le parcours d'onboarding est de moins de 30 secondes et la réutilisation après est de...
Alors justement, Opal a réalisé un test avec le groupe d'Orcel.
Oui.
Bon, pas un des moindres dans les acteurs des sites pornographiques. Et vous nous dites que vous avez réussi à un taux de conversion trois fois supérieur aux autres solutions en double anonymat.
Oui.
Qu'est-ce qui fait la différence justement ? Qu'est-ce qui fait que c'est plus ou moins adopté ?
La différence, c'est l'optionnalité. C'est-à-dire qu'on laisse beaucoup de choix à l'utilisateur. Donc quand vous arrivez, en fait, vous avez plusieurs options. Si vous n'aimez pas le selfie, du coup vous pouvez choisir de le faire par carte bancaire avec un paiement à zéro.
D'accord.
Vous pouvez aussi décider de le faire par votre identité digitale, donc on est en train de discuter avec les fournisseurs d'identité digitale pour en rajouter plusieurs à notre portail. Vous pouvez également décider, si vous le souhaitez, de mettre votre carte d'identité pour que nous, on puisse faire la vérification. Et du coup, je rebondis un peu sur ce que disait Stéphane tout
à
l'heure.
Et quels sont les choix qui ont été privilégiés ?
Les choix qui ont été privilégiés, c'est le selfie. À 50% instantanément, le selfie. Et c'est la solution qui marche le mieux puisque, du coup, c'est vraiment en quelques secondes quand vous avez l'âge. Par contre, quand vous êtes un peu borderline, c'est-à-dire que vous avez 18 ans et 3 jours, là effectivement on va être sur des...
Qu'on fait un peu jeune et qu'il y a ce trou
qu'on fait un peu jeune, voilà.
Et si on a un copain, si on a un grand frère, si on a un copain à côté de nous aussi...
De toute façon, si on a un complice, malheureusement, mais dans le référentiel de l'ARCOM, attention, le selfie, l'ARCOM dit bien, il ne faut pas que ce soit des méthodes qui permettent de laisser passer des faux positifs.
Mmh.
Alors qu'aujourd'hui, les selfies, il y a une marge d'erreur.
Oui.
La carte bancaire en France, un jeune de 12 ans peut avoir une carte bancaire.
Alors on est à 99,5% sur le selfie.
En tout cas, c'est clairement dit dans le référentiel que toute solution qui laisserait passer des faux positifs, ce qui est le cas des solutions, ne serait pas autorisée.
Alors ils acceptent pour l'instant justement l'identification par carte bancaire et ça pourrait même être pérennisé. On pourrait rester sur ce modèle.
Je ne crois pas. Enfin, en tout cas, c'est bien.
En tout cas, il y a une porte ouverte.
D'accord. Effectivement, la solution par carte bancaire, c'est un moindre mal. L'idée, c'est, en attendant, parce que c'est quand même compliqué d'intégrer une solution, il faut se poser des questions, qu'est-ce que je fais de mon parcours utilisateur ? Donc, avant que...
Ces grandes plateformes X, elles ont, à mon avis, les moyens de disposer de
bonnes solutions
technologiques.
Mais il y a aussi de plus petites plateformes.
Donc, c'est surtout que si on leur laisse le temps, là, pour le moment, c'est 6 mois à utiliser la carte bancaire, elles vont de toute façon sauter sur l'occasion et dire... Parce que la carte bancaire, elles l'ont déjà implémentée.
Mais ça permet déjà de filtrer quand même une bonne partie, donc on des utilisateurs.
Une bonne partie.
Tous les ados n'ont pas de carte. Effectivement, il y a des ados qui ont des cartes, y compris le mien, donc bien sûr.
Moi aussi.
Mais effectivement, tous n'en ont pas. Donc ça enlève. Et puis surtout, les 6-8 ans qui tombent sur du contenu, ceux-là, ça les filtre directement. Donc on a quand même une solution à peu près acceptable.
Alors, je voulais, on a plus beaucoup de temps, mais je voulais qu'on voit ensemble justement si on part de la solution identité numérique. Donc, puisque tous les Français vont avoir accès à une identité numérique, on va dire régalienne, comme ma carte nationale d'identité en version numérique d'ici à 2027. Si on part de cet identifiant pour vérifier l'âge ou la majorité, parce que c'est aussi un sujet ça, est-ce qu'on vérifie l'âge ou est-ce qu'on vérifie la majorité ? Comment est-ce que ça fonctionnera ? Comment est-ce qu'on pourra filtrer le type d'infos qu'on fournit ou non à un site ?
Alors aujourd'hui déjà, il y a un filtrage, contrairement à justement quand on présente notre pièce d'identité dans le monde physique, où là toutes les données sont sur la pièce, l'avantage déjà de l'identité numérique, c'est qu'on peut fournir là où les données qui sont nécessaires au service. Aujourd'hui, on peut fournir « j'ai plus de 12 ans, j'ai plus de 15 ans, j'ai plus de 18 ans ». En revanche, tel que ça fonctionne aujourd'hui pour nous, par exemple Iris ou pour France Identité, on n'a pas cette barrière que propose Opal qui permet de garantir le double anonymat. Nous, on a fait un développement supplémentaire où on peut stocker dans le mobile de l'utilisateur sa date de naissance et du coup être capable de lui permettre à lui d'être complètement autonome s'il veut accéder à un site à contenu pour adultes.
Mais concrètement, elle est où sa date de naissance ? Elle est dans son portefeuille ?
Elle est dans un élément... Alors, à terme, ça sera le portefeuille, le fameux portefeuille d'identité. Pour le moment, on est effectivement dans les prémices du portefeuille, mais on est déjà complètement conforme, effectivement, au protocole du futur portefeuille d'identité. Et là, dans ce cas-là, l'utilisateur, il veut accéder à un site, il va scanner avec son mobile le code barre qui est sur le site à contenu pour adultes, et en fait, le dialogue va être entre le téléphone de l'utilisateur et le site, ce qui fait que nous, IDNOW, on est complètement hors du sujet, donc double anonymat, évidemment, plus que garanti.
Bon, bah, on voit que tout ça va bouger, il va falloir qu'on s'habitue à ces nouveaux usages, visiblement. Merci beaucoup à toutes les deux pour vos éclairages. Camille Hissenmann, cofondatrice d'Opal, et Stéphane Mavel de IDNOW, donc responsable marché et stratégie identité numérique. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.